Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bienvenue dans cette escapade et vous qui a lieu dans le cadre de cette journée consacrée aux 50 ans de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Je suis en compagnie de Gersand de Merceau. Bonjour. Gersand de Marceau, d'ailleurs.
Gersand de Marceau,
pardon. Donc, tu es membre du planning familial de l'Hérault et par ailleurs, sage-femme.
Alors, tout à fait. J'ai été longtemps membre du conseil d'administration du planning familial pendant de 7 années. Je suis toujours militante, bénévole là-bas sur différentes actions. Et puis, voilà, depuis quelques années aussi, je suis sage-femme. Je travaille en libéral à Montpellier.
Ok, alors pour commencer cette émission, je souhaiterais que tu fasses un petit point sur ce qu'est le planning familial, dont l'histoire est liée au droit à l'avortement et à la contraception.
Tout à fait. Le planning familial a été créé en 1956 au niveau national. C'est une association qui a été créée d'abord sous le nom de Maternité Heureuse, et c'était pour redonner... la possibilité aux femmes de choisir si elles veulent un enfant et quand elles le veulent, d'où ce nom de maternité heureuse pour qu'elle ne soit plus subie mais choisie. Et puis petit à petit, le nom s'est modifié au nom de planning familial. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que dans le nom, il y a le mot planning comme planification de la famille, des grossesses. Aujourd'hui, le nom pourrait être rediscuté. Parfois, on cherche à nous appeler autrement, mais je pense qu'il est marqué et on est vraiment bien visualisé dans le paysage par ce nom-là. Donc, c'est difficile de le changer. On a historiquement, on luttait pour la contraception, pour l'accès à la contraception, puisqu'en 1956, la contraception était interdite et n'existait pas. Et puis après, on s'est mobilisé aussi pour l'avortement. Pour son accès et puis pour que ça soit quelque chose qui soit remboursable et pris en charge par la Sécurité sociale. Et parallèlement à tout ça, et encore aujourd'hui, on lutte pour un accès à l'information, à l'éducation, à la vie affective et sexuelle. Et puis, on a aussi différentes... certains plannings familiaux de France et notamment celui du planning de Montpellier, on est un centre de santé sexuelle, donc avec une possibilité d'avoir des consultations avec gynécologue ou sage-femme et puis des consultations avec des conseillères conjugales et familiales sur des thématiques comme la contraception, l'avortement, mais aussi les violences conjugales, les violences sexistes et sexuelles. Et plein d'autres problématiques liées au genre dans lesquelles on peut discuter au planning familial.
Et alors, en dehors de ces permanences au planning, il y a aussi des actions qui sont menées tout au long de l'année, avec des dates peut-être phares, un petit peu.
Oui, alors bien sûr, on est présente au moment du 8 mars, sur la journée mondiale des droits des femmes. Il y a souvent un moment festif de manifestation, de stand où on essaie d'être présente et de rappeler les inégalités des hommes et des femmes à ce moment-là. On est aussi présente sur la journée du 28 septembre pardon, sur la contraception, 26 septembre sur la journée mondiale de la contraception, suivie après la journée mondiale aussi de l'avortement le 28, et puis sur au mois de novembre aussi, le 25 novembre, la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'est des moments où on essaye de mobiliser le plus de personnes et de faire de la sensibilisation sur ces temps-là.
Et quels sont sinon les lieux où vous intervenez, où vous tenez des stands
Alors, on intervient dans les écoles. Dans les différents plannings familiaux, ça dépend aussi, chaque antenne est différente, mais on peut intervenir depuis l'école maternelle jusqu'au lycée. À Montpellier, on intervient surtout en collège et en lycée sur les questions de vie de vie affective et sexuelle. On intervient aussi dans les facs, parfois on fait des stands, et puis on peut intervenir aussi dans des centres pour des personnes en situation de handicap, pour faire les mêmes thématiques d'éducation à la vie sexuelle et affective, mais aussi pour travailler aussi avec les éducateurs, les infirmières ou les professeurs aussi dans les établissements scolaires, pour parler de différents programmes qu'on a, notamment le programme PRODAS, qui est un programme qui travaille sur les émotions et l'expression de ces émotions, et qui a fait vraiment un grand succès au Canada, où ils ont montré qu'il y avait une diminution des violences de genre, des violences conjugales notamment, avec ce système d'éducation à l'expression des émotions.
Ok, alors on va en venir maintenant à la loi. La loi donc du 17 janvier 1975, elle a été votée ce jour-là, elle dépénalise à ce moment-là l'IVG. On l'appelle la loi Veil parce que c'était le nom donc de Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé et qui a porté cette loi. Cette loi qui a été votée non sans heurts et sans bousculer les pans les plus conservateurs de la société française. Alors, un petit peu avant, en 67, il y avait eu une loi qui autorisait donc la contraception, la pilule contraceptive. Tu m'interromps hein, si tu as besoin de préciser des choses. Et ça a lentement, donc, tout ça a ouvert la voie à l'évolution de la législation sur la contraception, sur l'avortement. Alors, il faut dire que cette loi, elle est venue... Elle a été portée par Simone Veil, mais avant ça, il y a eu des luttes donc, du planning familial, mais aussi de différents mouvements, dont le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, et sans doute d'autres organisations que je n'ai pas en tête. Il y avait eu aussi un manifeste qui avait fait un peu scandale à l'époque, de 343 femmes qui déclaraient avoir avorté. Et une date importante aussi, ça a été ce qu'on appelle le procès de Bobigny en 72, où l'avocate Gisèle Halimi s'est emparée de ce procès comme une tribune aussi en faveur de l'avortement. Et d'ailleurs, ce procès où étaient jugées plusieurs femmes pour avoir fait un avortement illégal, eh bien, elle l'a remporté avec succès. Est-ce que tu veux ajouter des petites choses au contexte de 75?
Non, je veux peut-être insister, mais pas forcément ajouter, sur le fait qu'effectivement, ça a quand même été aussi un grand mouvement des femmes et de la rue, quoi. Il y a eu quand même beaucoup de manifestations, beaucoup de mobilisation des femmes, et notamment aussi l'organisation du MLAC, qui est quand même un mouvement qui n'a... pour le coup, presque tant mieux, pas duré longtemps, ça a duré à peine 2 ans, le MLAC, puisque rapidement, du coup, la loi a été votée. Mais il faut, je pense, insister sur le fait que ça n'a pas été quelque chose qui a été proposé par le gouvernement, mais bien poussé par les femmes qui étaient extrêmement motivées à vouloir reprendre le contrôle de leur corps. Et puis, c'était... majoré un peu par le fait que voilà, les inégalités entre les hommes et les femmes sont un peu la base sur la possibilité ou non de pouvoir choisir une grossesse. Et quand on n'a pas cette possibilité-là, il y a vraiment les inégalités entre les hommes et les femmes qui explosent de par la contrainte de la maternité. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que la colère des femmes a été... entendu par le gouvernement et notamment par Simone Veil en 1975.
Ok, alors que dit cette loi exactement? Alors j'ai préparé une courte présentation de la loi. Pour dire qu'elle a été adoptée au départ pour une durée de 5 ans et elle encadre la pratique de l'interruption volontaire de grossesse. Pour décider d'une IVG, une femme doit se trouver en situation de détresse, l'intervention doit être réalisée dans un délai inférieur ou égal à 10 semaines de grossesse, l'acte est réalisé par un médecin dans un établissement de santé, les médecins disposent d'une clause de conscience, de consultation médicale et une constatation consultations psychosociales sont obligatoires avant l'intervention. Alors ça, c'est le cadre de 75, mais la loi a évolué jusque dans les années 2000.
Oui, et donc il faut rappeler aussi que voilà, dans les années 75, ça a été d'abord une loi qui était complètement expérimentale. Et du coup, il ne l'avait autorisée que pour 5 ans, donc jusque dans les années en 80. Donc ça a été quelque chose aussi qu'il a fallu aussi justifier pour montrer son efficacité dans la protection de la santé des femmes pour qu'elle soit de nouveau pérennisée dans les années 80. Et dans un premier temps, dans les années 75, le nombre d'avortements a augmenté, ce qui a du coup été le fruit de beaucoup de contestations, notamment de ceux qui étaient contre l'avortement, en disant bah voilà, comme maintenant l'avortement est légalisé, de plus en plus de femmes font des avortements comme si elles prenaient la contraception. On explique ce chiffre d'augmentation surtout par le fait qu'on avait minoré le nombre de femmes qui faisaient des avortements illégaux. Puisque voilà, comme c'était illégal, c'était difficile de les chiffrer. Et il faut voir que jusqu'à en 2023, le chiffre de nombre d'avortements en France reste quasiment stable.
D'accord. Ok. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est assez stable.
Il augmente très légèrement parce que la population augmente. Mais en termes de pourcentage, on est à peu près sur des chiffres assez stables après les années 60-75, les premières années où le chiffre n'a fait qu'augmenter pour régulariser et éclaircir un peu ces chiffres qui étaient légaux, depuis il est stable.
D'accord, et on peut dire aujourd'hui que, est-ce qu'on aurait un pourcentage de femmes qui dans leur vie, en France, ont recours à l'IVG ?
On dit qu'en France, une femme sur deux a recours à l'IVG dans sa vie.
D'accord, ok. Et donc, il y a eu des évolutions de cette loi. En 79, les dispositions de 75 sont pérennisées. En 80, l'IVG est remboursé par la Sécurité sociale. En 2001, la loi est aussi réformée. Donc, le délai est porté à 12 semaines de grossesse. Puis ensuite, aujourd'hui, c'est plus que ça.
Aujourd'hui, depuis 2022, le délai est passé à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'aménorrhée, donc 2 semaines depuis les dernières règles. Et il y a aussi eu un changement en 2022 de délai d'avortement médicamenteux. Donc aujourd'hui, on peut faire un avortement médicamenteux jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines d'aménorrhée, et un avortement par voie chirurgicale jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'aménorrhée.
D'accord. Alors, il y a eu aussi encore des évolutions. En 2014, on supprime la mention « situation de détresse ». Et donc, une femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse, c'est maintenant la mention, donc peut demander une IVG.
Oui, ça stigmatisait beaucoup les femmes de marquer ce terme de situation de détresse. Ça montrait l'unique possibilité d'avoir recours à l'avortement, c'est quand vraiment il y avait une émotion forte de désespoir, de tristesse, alors que c'est pas toujours ça qui se passe dans la réalité. Il y a des femmes qui sont déterminées à mettre un terme à leur grossesse pour différentes raisons, et c'est pas forcément une situation de détresse, et pour déstigmatiser aussi le fait que un avortement n'est fait que dans des moments de désespoir. Voilà. Quand on a recours à l'avortement, c'est parfois aussi parce qu'il y a eu un échec de contraception. La plupart des avortements, c'est dans ces cas-là. Et du coup, il y a une détermination, et pas forcément un désespoir, mais il y a une détermination de ne pas vouloir cette grossesse puisqu'il y a eu un échec de contraception. Voilà. Et de pouvoir dire « je ne veux pas poursuivre cette grossesse simplement sans majorer quelque chose d'émotionnel par-dessus ».
D'accord. Et en 2017... il y a eu une loi qui, par rapport au délit d'entrave à l'IVG, parce qu'on sait qu'il y a des opposants à l'IVG qui sont très virulents et qui vont jusqu'à entraver la possibilité pour des femmes d'y avoir recours. Il faut savoir que cette loi, elle punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, ce qui aujourd'hui est beaucoup le cas.
Alors aujourd'hui, ça commence à se modifier, mais quand on tape avortement ou IVG sur Google, le second site qui sort, c'est un site anti-avortement, pro-life comme on les appelle, et qui vient essayer de démotiver certaines femmes à avorter ou à culpabiliser celles qui font un avortement. Alors il y a une grande campagne sur le fait que ces derniers temps pour que ça soit le site officiel du gouvernement qui soit le premier dans la liste, mais ça l'est depuis peu et ça reste encore le second site qui est un site anti-avortement dans lequel on peut trouver des informations culpabilisantes, jugeantes et complètement fausses sur la manière dont on pratique un avortement et ce qui peut se dire aussi sur les termes utilisés. Voilà, quand on fait un avortement à moins de 7 semaines de grossesse, on est sur des amas cellulaires sur ces sites-là. Souvent, ils utilisent des mots comme bébé, un infanticide, voilà. Alors qu'on n'est pas du tout sur ces termes-là quand on est à une grossesse aussi peu développée.
Et d'ailleurs, comme tu es aussi sage-femme, j'aimerais bien que tu nous parles des différentes formes d'interruption volontaire de grossesse. Alors, il y a médicamenteuse ou instrumentale, justement, pour que les auditeurs aient une information précise sur l'IVG et sa pratique.
Alors, la méthode médicamenteuse, elle se fait du coup jusqu'à 7 semaines de grossesse, 9 semaines d'aménorrhée. C'est un premier comprimé qu'on prend chez un professionnel de santé, qui peut être une sage-femme, une gynécologue ou un ou une médecin généraliste en ville, ou dans un centre d'IVG, d'orthogénie, qu'il peut y avoir dans certains établissements de santé, des CHU, des cliniques privées. Le premier médicament est pris avec la présence de ce professionnel de santé ou alors il peut être délivré par le professionnel de santé et pris aussi chez soi. Après ce premier médicament qui va arrêter le développement de la grossesse, il y a un deuxième médicament qui sera pris 36-48 heures après ce premier et qui lui va permettre d'évacuer la grossesse. Donc ce deuxième médicament est soit pris au domicile de la personne dans le cadre de ce qu'on appelle une IVG en ville, par un professionnel en ville, en libéral, soit lors d'une journée d'hospitalisation quand c'est dans un établissement de santé public ou privé. Ce qui permet de sécuriser quand on est seul chez soi et qu'on a peur des conséquences des saignements importants ou de la gestion de la douleur, ça peut être pris en charge par cette structure hospitalière qui accompagne convenablement. Et puis il y a aussi la méthode instrumentale, qui est donc une aspiration qui peut être faite jusqu'à 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorrhée. Et celle-ci, elle peut être faite à n'importe quel moment de la grossesse aussi. On n'a pas besoin d'attendre le délai dépassé de la méthode médicamenteuse pour pouvoir avoir accès à la méthode instrumentale. Donc on peut y avoir accès dès 5, 6 semaines, 7 semaines d'aménorrhée si la personne en a envie et si elle ne souhaite pas passer par la méthode médicamenteuse. Pour cette méthode-là, il faut prendre rendez-vous avec du coup un établissement de santé, ça c'est obligatoire. Il y a un rendez-vous avec médecin ou sage-femme obligatoire dans un premier temps, avec un anesthésiste. Et puis la date de l'intervention est prévue quelques jours après, en fonction des agendas de tout le monde. Et cette méthode instrumentale, elle se fait sous anesthésie générale, dans un bloc obstétrical. Elle dure vraiment quelques minutes. C'est une méthode très facile et très connue de par des professionnels, puisque c'est la méthode qu'on utilise. Alors, elle a évolué depuis, mais c'est la méthode d'aspiration qu'on utilise depuis les tout premiers avortements. Aujourd'hui, les techniques sont beaucoup mieux connues et le matériel est beaucoup plus adapté. Ça dure quelques minutes. Ensuite, la personne se réveille en salle d'opération, en salle de réveil, pardon. Elle reste quelques heures en surveillance dans l'établissement de santé. Et puis ensuite, elle peut sortir quelques heures après de cet établissement et rentrer chez elle.
Ok. Merci pour toutes ces précisions et des informations justes sur les méthodes. On va se faire une petite pause musicale. Et on va commencer avec la Lega, qui est un chant populaire de lutte italien sur les femmes et qui commence avec les mots suivants. Nous sommes des femmes et nous n'avons pas peur.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo per amor dei nostri figli. In lega ci mettiamo. Cromiri col padrone, cromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione. Cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Vous êtes toujours sur Radio Escapade dans Escapadez-vous avec Gersand Marceau du planning familial. Alors, donc, on évoque depuis le début de cette émission les 50 ans de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Et 50 ans après, on va se poser la question de où on en est par rapport à ce droit fondamental. Alors, on sait qu'en 2024, la liberté de recourir à l'IVG est entrée dans la Constitution, mais des questions se posent quand même, à savoir quels sont les accès réels à l'IVG et s'il y a encore des obstacles à l'accès à l'avortement. Et pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur une étude qui a été commandée par le planning familial à l'IFOP, je crois, oui, c'est ça, en 2024, qui s'appelle le baromètre d'accès à l'avortement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce baromètre ?
Alors, oui, je vais vous parler de ce baromètre commandé donc, voilà, par le planning familial à l'IFOP pour faire un petit peu un état des lieux de l'avortement en France, puisque, comme tu viens de le dire, il a été la liberté de recourir à l'avortement et à entrer dans la Constitution. Malheureusement, cette liberté ne protège pas d'un potentiel accès à l'avortement. On peut être libre d'avorter et ne pas être condamné d'avoir réalisé un avortement. Par contre, ça ne garantit pas l'accès à l'avortement. Et c'est là-dessus qu'on a aussi milité avec le planning familial pour que ça soit le mot « droit » à recourir à l'avortement et non pas la liberté, pour qu'il y ait une notion de responsabilité aussi du gouvernement sur l'accès à l'avortement pour toutes les femmes en France. Partant de cet état de lieu-là, nous avons fait une étude pour voir ce qu'il en était un peu de l'accès en France à l'avortement et puis aussi pour voir quelles étaient la légitimité de poursuivre ou d'accentuer le plaidoyer de l'accès à l'IVG par le planning familial. Alors, les premiers chiffres qui sont sortis, ça a été quand même 85% des personnes qui ont été interrogées se disent attachées au droit à l'avortement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi important à souligner. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont anti-avortement et anti-choix et qui sont très visibles, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais la plupart des personnes, et notamment des femmes, bien sûr, sont largement favorables à l'accès à l'avortement. 89% des personnes signalent malgré tout des freins à cet accès restent des freins liés à la inégalité sur le territoire, des culpabilisations ou des pressions qui sont exercées sur les femmes qui veulent avorter de la part des professionnels de santé, la peur aussi d'être jugée et surtout le tabou qui persiste dans notre société autour de l'avortement. Ça, c'est quand même hyper important à souligner. C'est ce qu'on voit le plus. Alors moi, en tant que sage-femme qui réalise des IVG dans mon cabinet, une des premières choses que j'entends, c'est des femmes qui disent « ma religion ne me l'autorise pas, mais je viens quand même ». Et parfois, ce sont des personnes qui savent comment réaliser l'avortement, parce que parfois, elles en ont déjà vécu aussi un autre. Et c'est pour montrer à quel point elles ne sont pas soutenues par leur famille auxquelles elles cachent l'accès à l'avortement. Et ce qui rend aussi l'avortement plus compliqué et plus difficile à vivre, puisqu'il est souvent vécu dans le secret.
Alors, moi, c'est un chiffre qui m'a surpris, ça, parce que j'avais l'impression que ça, c'était plus forcément un tabou, que c'était quelque chose qui, depuis 50 ans, était accepté, évidemment pas par certaines franges de la population, mais que plus largement, c'était plus aussi tabou. Et en plus, quand on sait que une femme sur deux, comme tu disais tout à l'heure, a recours dans sa vie à l'IVG, en moyenne, hein, voilà.
Il y a quelque chose de... La société culpabilise les femmes à avorter. On les prend pour responsables d'avoir eu une grossesse qui n'est pas désirée. Donc, soit on les rend responsables de n'avoir pas su correctement prendre le moyen de contraception, soit on les rend responsables de ne pas avoir choisi le bon moyen de contraception. Avec toutes les contraceptions qui existent aujourd'hui en France, ce n'est pas possible que les femmes puissent encore avorter. Ça, c'est un peu le discours qu'il y a du coup dans la société, ce qui fait que quand une femme se retrouve enceinte d'une grossesse non désirée, soit par échec de contraception, ce qui arrive beaucoup, on sait que les méthodes de contraception ne sont pas fiables à 100%, et celles qu'on utilise le plus celles qui sont plus à la mode en ce moment de par la remise en question des hormones sont des méthodes qui sont pas forcément les plus efficaces. Alors par exemple le stérilet au cuivre, mais aussi la méthode du retrait ou la symptothermie, les méthodes qui sont des méthodes qui sont moins efficaces que d'autres, et donc ça peut entraîner des échecs de contraception et une grossesse non désirée qui donne accès à une possibilité de faire un avortement après. Mais il y a aussi le manque d'informations sur certaines contraceptions, mais il y a aussi des femmes et des couples qui ne prennent pas de contraception parce que la contraception elle-même aussi est stigmatisée dans notre société. pour différentes raisons. Et donc, du coup, on, voilà, par choix, on ne prend pas la contraception, et ce qui peut amener voilà, à des grossesses qui ne sont pas désirées.
Ok. Alors, il y a un point sur lequel revient l'étude, qui est donc que cet accès à l'IVG n'est pas le même pour toutes, c'est-à-dire que, et l'étude met en avant, donc une plus grande difficulté à accéder à l'avortement dans les zones rurales et une plus grande difficulté à accéder à l'avortement pardon, pour les femmes immigrées en situation irrégulière.
Oui. Alors ça, c'est l'accès, l'accès aux soins est complètement inégal. Alors pour les femmes immigrées sans papier, ça rend difficile puisque les seuls endroits où elles peuvent y avoir accès, c'est dans les centres hospitaliers universitaires ou les centres hospitaliers publics avec des difficultés de prise en charge et surtout, difficultés de prise en charge administrative. Mais difficultés de prise en charge humaine parce qu'elles sont stigmatisées, elles sont culpabilisées, elles sont mal prises en charge parce qu'on considère que le fait qu'elles ont des difficultés de parler français, elles ne comprennent pas ce qu'on va leur expliquer et du coup elles sont mal prises en charge. Et il y a aussi tout un imaginaire aussi sur le fait que on ne puisse pas avorter quand on n'est déjà pas dans un pays qui est le nôtre, ou alors l'enfant ça va apporter quelque chose de positif. Et donc du coup il y a vraiment tout un discours autour de ça qui ne va pas prendre en considération la demande concrète de la femme de vouloir avorter. Pour les inégalités de territoire, on le voit très bien dans notre région ici, c'est plutôt facile, je mets le plutôt avant cette phrase, d'avorter dans les grandes villes telles que Montpellier par exemple, ou Nîmes ou Alès pour notre région. Parce qu'il y a des centres, des établissements de santé qui les font, mais aussi des professionnels de santé libéraux qui ont des conventionnements avec ces centres de santé, ces établissements de santé, et donc du coup peuvent faire des avortements en ville. Sur des territoires plus reculés en campagne, où l'établissement de santé le plus proche est à plus de 45 minutes, ça complique le conventionnement aussi des professionnels libéraux avec cet établissement de santé, et donc du coup la possibilité de faire des avortements en ville. Mais aussi, ça complique fortement le recours et l'accès pour ces personnes-là, parce qu'il faut se déplacer, il faut pouvoir faire 45 minutes de route, voire plus, pour parfois le premier rendez-vous qui permet de recueillir le consentement, et puis de faire les prises de sang qu'il faut, les échographies qu'il faut, puis ensuite souvent revenir quelques jours après pour le deuxième rendez-vous, ce qui multiplie les difficultés pour avoir recours à l'avortement. C'est aussi plus compliqué quand on est mineur. Alors aujourd'hui, il n'est plus obligé d'être accompagné de ses parents pour avorter quand on est mineur. Par contre, il faut toujours être accompagné d'une personne majeure. Donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être même votre voisin, votre voisine. Ça peut être un copain ou une copine qui a 18 ans. Mais ça peut aussi être des personnes au sein de l'établissement de santé qui acceptent d'accompagner la personne mineure pour avorter. Mais quand on est mineur et qu'on habite à la campagne, ça devient aussi plus compliqué d'avoir accès de manière anonyme, ou en tout cas pas forcément en parler à ses parents. C'est plus compliqué quand les centres d'avortement sont éloignés de sa maison.
Oui, pour des raisons de discrétion, de transport. Et donc les risques dans ces cas-là, évidemment, c'est avec ces difficultés qui se cumulent, c'est un moment d'être hors délai.
Exactement. Soit d'être hors délai déjà pour la méthode médicamenteuse, du coup après ce qui enlève la possibilité de choisir et du coup contraint uniquement la méthode chirurgicale qui entraîne d'autres nécessités de rendez-vous aussi pour les personnes. Mais aussi ça isole aussi souvent les personnes qui, le temps de prendre la décision ou d'avoir les rendez-vous, se sentent mal, ne sentent pas bien dans leur corps ou se posent plein de questions. Plus ça rajoute aussi des fois des pressions aussi sur le temps de prise de décision qui a été pris, que peuvent parfois mettre les professionnels de santé, alors que souvent ce n'est pas des temps de prise de décision mais des temps d'accessibilité à l'accès. Donc oui, ça majore la possibilité d'être marqué par son avortement. Alors, c'est important aussi de le rappeler qu'un avortement n'est pas toujours traumatique. Voilà. On peut bien vivre son avortement quand on est bien accompagné par des professionnels de santé qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent correctement, sans jugement et sans culpabilité. Par ailleurs, un avortement est toujours un événement dans la vie d'une femme et d'un couple où on peut se questionner aussi sur la possibilité que ça se passe le mieux possible.
Et alors, il y a eu dans cette étude aussi l'enquête a été faite à un niveau national, mais aussi auprès des associations départementales. Et tu as peut-être des éléments à nous apporter plus précisément sur l'Occitanie.
Alors, sur l'Occitanie, on remarque que on est une des régions qui réalise le plus d'avortements. Par rapport aux autres régions, on a un taux de recours à l'avortement qui est plus important. La majorité des avortements en Occitanie se font entre 20 et 34 ans. Donc ça, c'est aussi intéressant à souligner parce qu'on a souvent cette notion d'avortement et qui est liée à des personnes mineurs ou jeunes majeurs et qui du coup n'ont peu de connaissances ou peu d'informations sur la sexualité, la contraception ou l'avortement, alors que c'est plus, on retrouve quand même plus d'avortements plutôt sur des couples qui sont établis et qui se questionnent en fait sur l'arrivée d'une grossesse indésirée. Est-ce qu'on a envie de la poursuivre jusqu'à la fin, cette grossesse, et jusqu'à avoir un enfant, et se questionnent énormément sur le désir de parentalité. En Occitanie aussi, la particularité, c'est que la majorité des avortements médicamenteuses sont faites par des sages-femmes. Dans 58% en Occitanie, 58% des avortements en Occitanie sont faits par des sages-femmes, alors qu'au niveau national, c'est plutôt 40% par des sages-femmes. Donc on voit que les sages-femmes sont un recours important sur cette question-là dans notre région.
Voilà. D'accord, c'est les éléments à retenir donc sur l'Occitanie. Alors, je voulais aussi, on en a déjà un petit peu parlé, mais de l'offensive réactionnaire actuelle. Bon, en fait, il y a toujours eu des mouvements contre l'avortement. Alors, moi, je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit plus qui paraît plus présent aujourd'hui, en tout cas offensif aujourd'hui, pour des raisons dues à l'époque, mais aussi aux réseaux sociaux, à Internet, etc. Déjà, je vais te demander un peu ton avis.
C'est quand même quelque chose qu'on voit un peu plus en ce moment, en tout cas qui augmente, où les... je ne sais pas si plus de gens sont contre l'avortement, en tout cas, ça se voit plus, et c'est plus visible. La semaine dernière, le planning familial de Montpellier s'est fait fracturer la boîte aux lettres. Donc c'est des actes de vandalisme qu'on voit de plus en plus aussi ces dernières années et dont on est victime, nous, le planning familial. Il y a quand même une montée de l'extrême droite en Europe et peut-être globalement aussi dans le monde. Donc ça, c'est absolument pas favorable à la protection et à l'accès de l'avortement dans le monde et du coup aussi en France, parce que ces courants-là aussi nous influencent. Je voulais ajouter autre chose, et ça m'a échappé, sur des mouvements aussi antiféministes qui augmentent de plus en plus, avec un retour aussi de la part des femmes à cette volonté d'être plus mère au foyer, d'avoir des enfants, et qui se dit de plus en plus. On peut le voir en intervention dans les milieux scolaires ou dans les milieux universitaires. Il y a de plus en plus ce recours comme voilà, les femmes sont faites pour avoir des enfants, et donc du coup c'est normal de ne pas avorter quand on est enceinte.
Bien. Donc face à ça, on voit que c'est un droit qui est toujours à défendre, en fait. D'ailleurs, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis le montre bien. C'est que c'est toujours fragile et qu'il faut toujours être là, quoi.
Bien, tout à fait. Tout à fait. C'est Simone Veil aussi qui le disait, qui disait qu'il allait falloir toujours se battre pour l'accès à l'avortement. On voit aussi sur les contextes économiques, quand il y a plus de chômage, plus de guerre, plus d'insécurité au niveau national ou mondial, il y a un retour en arrière et une volonté de limiter l'accès à l'avortement pour notamment, par exemple, avoir plus de population dans son pays, une population plus grande pour pouvoir faire la guerre ou faire des enfants et pour pouvoir augmenter la population et le nombre de travailleurs et de soldats dans son pays. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle l'avortement est menacé quand il y a des moments de crise ou de guerre. Et bien sûr, ce droit montre aussi le degré de démocratie qu'il peut y avoir aussi dans les pays. Plus les femmes ont des droits et des libertés, notamment celui de l'avortement, plus on peut se considérer dans un pays avec une démocratie avérée. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que là où les avortements sont interdits, en Hongrie, en Pologne, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, effectivement, on peut poser des questions aussi sur l'état de la démocratie.
Alors, face à ça, et puis comme c'est un droit à défendre, et puis un accès à rendre meilleur toujours, le planning a aujourd'hui encore des revendications, des demandes.
Oui, on en a plein, des demandes. On voudrait qu'il y ait un meilleur accès à l'avortement, voilà, en mettant déjà des campagnes d'information sur l'IVG, et pour combattre aussi un peu les idées fausses idées, les fausses informations qu'il peut y avoir sur l'avortement, typiquement genre l'avortement peut rendre stérile, voilà, ces idées qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui entravent les personnes pour pouvoir avorter dans de bonnes conditions. Voilà, qui est un accès beaucoup plus égalitaire sur le territoire. On en a parlé aussi tout à l'heure sur l'accès à une information fiable, voilà, dans l'espace numérique, donc grâce à des sites avec des informations non jugeantes, claires et qui sont neutres sur l'avortement, voilà, pour que les personnes puissent prendre leurs décisions correctement et sans être influencés par le contenu de ces sites. Informer aussi sur les personnes et les endroits où on peut faire des avortements. Encore beaucoup de personnes ne savent pas que des professionnels de santé en ville, des médecins, des gynécologues, des sages-femmes en ville peuvent faire des avortements et de manière gratuite, 100% remboursée par la Sécurité sociale. Il n'y a pas d'avance de frais à faire, donc ça c'est aussi hyper important lorsqu'on fait un avortement, et y compris l'échographie est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. Normalement, on peut dénoncer les médecins, gynécologues ou sages-femmes qui font payer les consultations là-dessus, c'est interdit. Et ça entraîne sinon des inégalités d'accès à l'avortement. Le planning familial aussi milite aussi pour qu'il y ait des délais plus grands à l'avortement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, puisque on a toujours l'impression que plus on attend et plus c'est quelque chose qui est avancé. Alors, il faut savoir que le fait d'avoir un délai plus grand, ça permet à plus de femmes d'avorter au moment où elles découvrent leur grossesse. C'est-à-dire que quand une femme découvre qu'elle est enceinte de 1 ou 2 semaines de grossesse, elle n'attend jamais le délai légal qui est de 14 semaines de grossesse pour avorter. Quand on sait qu'on est enceinte et qu'on ne veut pas garder cette grossesse, on avorte dans les plus brefs délais, là où, en respectant les délais des rendez-vous, malheureusement, qui sont souvent un peu longs. Mais le fait d'agrandir le délai légal d'avortement, ça permet aux femmes qui découvrent leur grossesse tardivement, et ça arrive fréquemment, beaucoup trop fréquemment, malheureusement pour ces femmes-là, et ce qui fait que des fois, il leur reste 1 ou 2 jours pour avorter. Et vu que les délais dans les centres de santé sont parfois de plus de 15 jours ou de 3 semaines, elles se retrouvent hors délais légaux pour avorter alors qu'elles ont découvert leur grossesse et sont encore au moment où elles le découvrent dans les délais. Donc le fait d'augmenter encore le délai d'avortement, nous on souhaiterait à 24 semaines de grossesse, comme c'est actuellement dans des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, permet aux femmes qui découvrent leur grossesse tardivement de pouvoir encore avoir accès à l'avortement.
Oui.
On aimerait bien aussi, alors ça c'est une demande aussi du planning familial, nous on est pour qu'il n'y ait plus de délai, de délai légal pour avorter. Encore une fois, pour cette même question, que quand on découvre sa grossesse et qu'on ne veut pas la garder, on s'y prend tout de suite. Voilà. Et des fois, quand on délai dépassé aussi, même les plus tardifs en Espagne ou en Royaume-Uni, ça contraint les femmes à garder des grossesses non désirées. Voilà. On aimerait bien aussi instaurer un vrai congé à la santé sexuelle et reproductive. Le travail de contraception ou d'avortement est un travail qui prend du temps et qui est souvent pris sur le travail salarié des femmes. Alors on le voit de plus en plus parce que de plus en plus d'hommes cherchent à se contracepter et donc du coup viennent consulter des professionnels de santé pour se contracepter, et ils sont confrontés au fait que en fait les horaires de consultation sont souvent de 9h à 17h comme les horaires de travail, que peu de professionnels de santé travaillent après 17h ou le week-end, et c'est souvent remonté par les hommes en disant dis donc, c'est difficile d'avoir accès à une contraception même quand on est motivé en tant qu'homme. Et cette réflexion qu'ils ont, en fait, elle est souvent complètement banalisée aussi par les femmes qui font ce travail-là depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire ce travail de charge contraceptive qui nécessite souvent de poser un jour de congé pour avoir un rendez-vous chez un professionnel de santé pour se faire renouveler sa pilule ou poser un stérilet, etc. Et qui nécessite aussi du temps. Quand on demande un avortement, il faut plusieurs rendez-vous parfois pour avoir tous les documents nécessaires pour avorter. Et ça aussi, on milite pour que ça soit pris en charge parce que ça demande du temps pour faire toutes ces démarches. On milite aussi, bien sûr, en parallèle pour que les démarches soient beaucoup plus allégé, beaucoup plus simplifié pour qu'il y ait moins de pertes de temps aussi là-dessus. Voilà, on voudrait aussi supprimer la clause de conscience spécifique à l'avortement, c'est-à-dire la possibilité qu'un médecin refuse de faire un avortement par des convictions morales ou à minima déjà que cette personne-là, normalement, applique la loi, c'est-à-dire qu'elle soit obligée d'orienter cette personne-là dès le début du rendez-vous vers une autre professionnelle de santé qui, lui ou elle, pourra faire l'avortement. Souvent, la situation est que la personne ne voudra pas réaliser l'avortement de la patiente qui le demande, mais du coup fait quand même toute la consultation, parfois même essaye même de la convaincre de ne pas faire l'avortement, et à la fin de la consultation lui annonce que de toute façon lui il ne peut pas le faire, et la renvoie comme ça sans autre orientation, c'est un autre professionnel de santé pour avoir accès à sa demande.
C'est des situations dont qu'on vous retourne souvent au planning, ou c'est quelque chose...
C'est des situations qu'on nous retourne, alors souvent, je n'irai pas là-dessus, mais régulièrement. Régulièrement, il y a des gynécologues ou des médecins, même des sages-femmes, mais qui refusent du coup de faire l'avortement et qui, au moment de refuser, ou alors montrent les images de l'échographie ou font écouter le cœur pour bien culpabiliser et à la fin annoncent que non, de toute façon, lui ne fera pas l'avortement parce que c'est contre ses convictions personnelles, morales ou religieuses. Voilà.
Ce qui ne devrait pas rentrer en compte.
Ce qui est totalement interdit par la loi, tout à fait.
Bien, on va s'accorder une deuxième pause musicale. Cette fois, c'est avec, je remets mes lunettes pour bien lire, avec Gia Margaret et le titre Solid Heart. C'est un extrait d'une compilation qui est sortie aux États-Unis en 2022, qui s'appelle Good Music to Ensure Safe Abortion Access to All, de la bonne musique pour assurer un avortement sûr pour toutes, et dont les bénéfices allaient à des associations pour l'avortement. Donc aux États-Unis, on l'écoute tout de suite. Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Escapade, sur le 103.3, le 104.1, le 102.0 dans l'émission Escapadez-vous, toujours en compagnie de Gersand Marceau du planning familial de l'Hérault. On arrive tranquillement à la fin de cette émission et je vais te demander, Gersand, de nous donner un peu les contacts des plannings locaux, Gare et Hérault, et puis aussi le numéro national du planning.
Alors oui, donc juste pour rappel, du coup, le planning familial, c'est une association nationale. On est regroupé en niveau confédération. Et nous avons plus de 80 antennes départementales. Donc il y a quasiment un planning familial dans tous les départements de France, quasiment. Donc il y en a un dans l'Hérault, à Montpellier, au 27 rue de Subsension à Montpellier, dans le quartier des Beaux-Arts. Le numéro de téléphone, c'est le 04 67 64 62 19. Et le mail, si vous avez besoin, c'est le planning c'est le planning @planning34.org. On a aussi un site internet et une page Instagram et Facebook pour les personnes qui le souhaitent. Il y a aussi une antenne dans le Gard, à Alès, le planning familial du Gard, au 29 rue Faubourg d'Auvergne. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 66 86 19 85. Et la mail est planningfamilial30@gmail.com. Et nous avons aussi un numéro vert national pour parler de sexualité, de contraception, d'IST ou d'avortement, qui est gratuit et anonyme si vous le souhaitez, et qui est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi. Et le numéro de téléphone est le 0800 08 11 11.
Alors, hors antenne, on évoquait le fait que dans le Gard, donc l'antenne est à Alès, mais il y a la préparation d'une antenne qui est en train de se faire là en ce moment, qui sera au Vigan, mais les personnes sont en train de préparer ça, de se former, et ce sera plutôt pour septembre de l'année 2025. Donc voilà. Il faut attendre encore un peu et d'ici là aller plutôt vers Alès ou Montpellier.
Exactement, un petit groupe local qui s'organise dans ces territoires un peu reculés entre le Gard et l'Hérault, où il y a un peu oublié par aussi nos bénévoles de chacune des deux associations départementales. L'Hérault et le Gard sont assez grands, et du coup sur ce territoire il y avait la nécessité qu'un petit groupe local s'installe. Donc bienvenue à eux, vivement qu'ils arrivent.
Et puis, on va conclure cette émission. Je vais la conclure en vous rappelant la suite et bientôt fin de cette journée sur Escapade, après donc les différents documentaires et autres Escapadez-vous que vous avez pu entendre tout au long de la journée. Donc après l'agenda culturel de 19h à 19h30, vous pourrez entendre un reportage qu'a réalisé Antoine de Radio Escapade sur le tournage du court-métrage « Lettre à Elisabeth », qui est un court-métrage qui a été réalisé par la troupe aux étoiles du Vigan, qui sera projeté demain à 18h30 au cinéma L'Arc-en-Ciel de Ganges avant le film Annie Colère. Et toujours sur notre antenne, à 21h, Frères de Chaussures vous a concocté une playlist d'occasion. Et enfin, à 22h, un docu-fiction de Julie Perra proposé par l'ACSR qui s'appelle La Décision. C'est une histoire pas extrêmement grave, mais pas banale non plus. Une plongée intime et chorale, philosophique et viscérale au cœur d'une prise de décision. Vous retrouverez aussi tous ces programmes de la journée spéciale en podcast sur notre site radioescapade.org. À bientôt, Gersand, peut-être.
À bientôt, merci à vous.
Et puis, bonne suite sur nos ondes à nos auditeurs.
Escapade
et vous
en studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.